I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
J'ai essayé d'exister avec parcimonie. J'ai essayé de pas être trop présent, mais d'être présent quand même. Pas être là, mais là, à une distance un peu, tu vois, supportable pour l'autre, tu vois. Il y a une porte qui s'ouvre. Ouais. Il y aura beaucoup de bruitage dans ce podcast. parce qu'on fait ça dans un studio de bruitage. J'avais peur que ça trouble vraiment trop notre quotidien et qu'on se retrouve plus. Qu'on dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça y est, on est devenus des relous, quoi. Ouais. Ou alors, toi, t'es devenu un relou. Parce que moi, bizarrement, c'est moi qui suis l'inquiet des deux.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous.
T'as l'habitude de parler dans un micro en plus, toi, le gars. Mmh. On est face à un professionnel de la radio.
Ouais, parler à la bouche pleine aussi.
C'est pas validé, ça, non, par la radio. Mmh. On s'en fout ici, dans un podcast, on fait ce qu'on veut, tu vois.
Ah, c'est bien.
Je t'entendais dans une émission là où vous étiez obligé de vous voyer avec Bruno Guillon. Moi, je te tutoie, hein, je te prie.
Ouais, je t'en prie.
Terrible. Bienvenue, Mayeux.
Merci beaucoup.
Le Manu Payette.
Merci de m'accueillir.
Ça me fait très plaisir de t'avoir. Ça fait un petit moment que je suis ton actu, n'est-ce pas ? Oui. Et que j'ai vu que t'étais papa. Ouais. Et je crois que la première fois que j'ai vu ta fille, je crois que tu l'as pas fait exprès, mais t'as pas enregistré des sessions de musique pendant le confinement que t'as foutu sur Insta.
Ouais.
Et il y a ta gamine qui vient à côté.
Elle est passée derrière. Ouais,
ouais. Ouais. Et j'étais là, putain, c'est fou. Et bon, tu les as tous supprimés parce que t'es comme ça, quoi. T'es un mec, tu décides de... T'as cliné, tu vois, ton réseau. T'as cliné tes réseaux comme les vrais stars. Manu, bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'être dans Histoire de Daron. Donc, t'es en ce moment, là, tu vas arriver, on est au théâtre, tu vas jouer ton nouveau spectacle qui s'appelle Emmanuel 2. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est une référence, ton affiche est une référence à... Ce film érotique, déjà, ça, c'est un peu Carbone 14 de ton âge, quoi, tu vois, ça donne direct. Il y a les gens qui ont la rêve d'Emmanuel et
exactement.
Ceux qui l'ont pas, quoi, tu vois.
Exactement. C'était un film érotique, c'était qu'à... Bah déjà, avant, il faut dire que les films érotiques un peu osés, ça sortait au cinéma.
C'est ouf. Hein.
C'est ouf. Et il y avait donc cette affiche qui m'avait marqué. Moi, j'étais petit quand on passait dans la voiture de mon père devant cette affiche, l'affiche d'Emmanuel avec une fille. Tu voyais bien que c'était pas un film, par exemple, sur les médecins. C'était pas genre Hippocrate, toi.
C'est sûr.
Et même si tu t'avais quand même un doute sur le fait, ça allait être un peu anatomique, en revanche.
On voyait qu'il y avait quand même moyen.
Et je me disais, waouh, cette elle s'appelle comme moi, quoi. Ça, déjà petit, ça me.
Ça t'avait marqué?
Ça m'avait marqué, ouais. Je me dis, elle s'appelle Emmanuel. Bon, je voyais bien qu'il y avait deux LE. À moi, il y en a qu'un, bien sûr. Mais quand même. Quand même. Tu vois, c'est devenu l'affiche de mon spectacle, tellement ça m'a marqué.
Bah, tu m'étonnes. Manu, t'es papa.
Ouais.
D'une petite fille. Qui s'appelle Johnny. Parce que t'aimes la musique.
Oui, parce que j'aime Johnny Mitchell, ouais.
Et non pas Johnny Hallyday.
Ah bah non, ça s'écrit pas pareil.
Ça s'écrit pas pareil.
Johnny Mitchell. J'ai le droit de mettre Johnny Mitchell là ?
Oui, tu peux.
Ah, super. Bah, je vais te mettre pourquoi.
Pour les gens qui ne connaissent pas Johnny Mitchell, mais qu'est-ce que vous faites ?
Eh bah ouais, c'est super.
C'est quoi ton morceau préf de Johnny Mitchell ?
Oh bah, c'est très très simple et c'est très basique. Tu vois, j'ai plusieurs albums là, mais je dirais que mon morceau préf, c'est quand même Big Yellow Taxi.
Ouais.
Qui est une chanson qui a été reprise, vous allez la connaître, par Janet Jackson, bien plus tard.
Oh là là.
Parce que là, on est en 70. Alors déjà, voici la voix de Johnny Mitchell. Il y a du soleil dans le podcast. Écoutez-moi ce refrain.
Bien
et
sûr.
Donc ce refrain, il a été repris par Janet Jackson. Ça s'appelle Got Till It's Gone. C'était dans les années 90.
Ah putain, ça. Ouais.
Voilà. Tu vois pourquoi.
Non,
voilà,
c'était sympa de nous avoir mis un peu de.
Ouais, c'est sympa, t'as vu ?
D'avoir mis un peu de musique.
Cette chanson est trop mignonne, quoi.
Et ta fille sait aujourd'hui qu'elle a 5 ans, c'est ça ?
6 ans.
6 ans. Mmh. Elle a capté que c'était en ref à Johnny Mitchell.
Ah oui, bien sûr, oui, ouais, elle connaît.
Puis
oui,
toute
oui.
petite.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Des fois, elle me dit papa, on n'est pas obligé d'écouter Johnny Mitchell.
C'est bon, là, d'accord.
Ouais, ouais, voilà.
Elle est déjà pré-ado.
Ah oui, bah oui.
Ça va à toute vitesse. Oui. Manu, donc, ouais, dans ton spectacle, tu parles longuement de ta paternité, de la maternité aussi, de comment t'es devenu papa, de ce que ça fait de rentrer avec un enfant, avec une troisième vie à la maison. Mais alors moi j'aimerais bien savoir, parce que t'en parles pas vraiment dans ton spectacle, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir papa ? Tu sais, j'aime bien chercher le désir de paternité, quoi.
Bah c'est ma femme.
Ah ouais.
J'avais, en fait, j'ai toujours fanfaronné, claironné partout que je voulais avoir plein d'enfants et que je voulais que le dimanche, il y ait des grandes tables animées et bruyantes où ça gueulait de partout, où ça courait dans le jardin, etc. Mais déjà, bon, j'avais pas de jardin. Et puis, et pas de grandes tables. Et puis surtout, j'avais,
pas de maman.
Dans ma vie, une personne avec qui ça se passait un peu bien. Et j'avais peur que l'arrivée d'un enfant bouleverse ça. J'ai eu peur que, tu sais, qu'on devienne comme certains de nos copains, quoi.
Des darons.
Ouais, des darons. Et des gens qui se foutent sur la gueule, tu vois. Ouais, ça t'embête si je dors chez vous ce soir, là, sur le canapé, parce que non, avec Nathalie, là, on s'est accroché, là. Tu vois, tu vois, j'avais pas envie de ça. Et pour moi, peut-être qu'au fond, peut-être même plutôt inconsciemment d'ailleurs, je pensais que ça allait passer par le. Que c'était à cause de l'arrivée de l'enfant. Que en fait après on allait plus être d'accord sur l'éducation, etc. Que bah non, ça se fait pas comme ça. Écoute, je peux laisse-moi au moins me tromper, voilà. Voilà, dire des choses comme ça et tout,
c'est un sujet de plus qui est
bah ouais, et puis
qui,
the sujet
qui
quoi,
est un gros sujet en plus,
ouais. Le big sujet, quoi.
Ouais.
Et je pense que comme dans les séparations tu découvres une partie de la personne avec qui pourtant tu as passé beaucoup de temps.
Ceci
de
est
ta
vrai.
Vie. Je pense que ça arrive aussi, tu découvres aussi l'autre quand vous avez un enfant. Il y a un truc qui sera de toute façon plus fort que toi quand t'as un papa, c'est que tu n'es pas la maman. Et pardon de dire ça, mais enfin respect de ouf de enfin je
tu te rends compte ?
J'ai appris à me taire,
oui.
à respecter, à dire waouh, à dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que voilà. Parfois, il y en a qui le vivent plus mal que d'autres, que de n'être que le papa. Et, qui veulent, enfin, je sais pas, j'ai essayé d'exister avec parcimonie. J'ai essayé de pas être trop présent, mais d'être présent quand même. Pas être là, mais là, à une distance un peu, tu vois, supportable pour l'autre, tu vois. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y aura beaucoup de bruitage dans ce podcast. parce qu'on est, on fait ça dans un studio de bruitage. J'ai essayé de, voilà, parce que j'avais peur que ça trouble vraiment trop notre quotidien et qu'on se retrouve plus. Qu'on se dit, ah ouais, d'accord, en fait, ça y est, on est devenus des relous, quoi.
Ouais.
Ou alors, toi, t'es devenu un relou. Tu vois, parce que moi, bizarrement, c'est moi qui suis l'inquiet des deux.
Ok.
Tu vois. Donc moi, je suis devenu un relou, j'arrête pas de dire, et tes chaussons, et tes trucs, enfin, tu vois, je...
T'étais vraiment devenu... Oui, tu t'es...
Ah, je suis devenu et tes chaussons, ouais.
T'as changé en ça, parce que t'étais plus chill avant, t'étais plus cool.
Bah, j'étais moins inquiet que quand j'en avais pas, toi, d'enfant.
Ça, c'est sûr. J'étais moins inquiet globalement.
Bah, de ouf, puisque j'avais pas d'enfant, j'avais que ça à foutre de ne penser qu'à moi. Ouais, c'est génial.
Mais tu peux aussi, tu vois, te dire, ok, je suis chill avec moi, et en fait, bah, l'enfant... Tu vois?
Bah oui, mais moi j'ai pas été élevé comme ça, du coup j'ai du mal à être ça.
Okay.
C'est mon rêve d'être ça. C'est mon rêve de penser comme ça. C'est mon rêve de pouvoir agir comme ça et de pouvoir dire bah c'est pas grave, la prochaine fois tu te feras moins mal parce que tu tomberas plus comme ça. C'est pas grave, chérie, ça va aller. Tu vois, ça, je ne peux pas faire ça. J'en rêve. Il faudrait que j'aille faire un stage dans des montagnes chinoises chez des moines Shaolin ou je sais pas quoi et que je revienne en Dark Knight de la paternité dans une zénitude. Moi je gueule d'abord. Parce que j'ai eu peur.
Parce que t'as peur.
Eh ouais.
Ouais. Et tu sais, je me disais, ok, donc t'as eu ta môme, t'avais genre 40 et quelques, c'est
ouais,
ça?
Ouais, j'avais 41.
Ouais. Et tu vois, je me disais, bah, peut-être que le fait d'avoir un enfant plus tard, tu vois, ça te permet aussi de pouvoir être plus chill, de pouvoir être plus tranquille et tout, mais ça n'a pas vraiment été ton cas, quoi.
Non.
Si tu l'avais eu à 30, tu crois que t'aurais été encore pire?
Non, je pense que j'aurais été moins. Je pense que j'aurais été plus cool. Je pense, ouais.
Ok.
Je pense que, justement, comme je l'ai eu tard, j'ai eu plus de temps pour être moi et pour rester dans qui je devais devenir. Tu vois, elle aurait corrigé la trajectoire en arrivant plus tôt.
Ouais.
Tu vois, si j'avais été moins flippé, voire lâche avant.
Lâche ?
Voire moins lâche. Tu vois.
Lâche comment ça ?
Bah parce qu'il faut quand même il faut du cran pour faut y aller, ça se réfléchit, tu vois. Alors il y a plein de couples qui n'ont pas eu l'occasion de le réfléchir, ça leur est tombé dessus. Et franchement, je les respecte et je les embrasse parce que là, c'est totalement une impro. Nous, ça s'est pas du tout fait comme ça. Ça a été un acte réfléchi, pesé, testé, analysé.
Qu'est-ce qui t'a fait basculer en te disant « Ok, c'est bon maintenant ». J'adore savoir, tu vois, le déclic chez les darons qui hésitent, quoi.
Clairement, encore une fois, c'est sa maman.
Ouais.
C'est de voir que à quel point elle en rêvait et de me rendre compte de à quel point elle avait besoin de moi pour ça et de me rendre compte que et à quel point c'est flatteur que qu'une femme te choisisse toi. C'est quand même c'est beau, quoi. C'est-à-dire que de tous les gars du monde c'est Watt le gars. Bah tu le fais en fait, ta gueule. Enfin, je sais pas, quoi, c'est hyper flatteur. Tu t'es plaint pendant tout ton collège que les filles te regardaient pas. Donc, bah non, ta gueule.
Prends donc un petit peu de...
Ouais.
Hein?
Là, je prends du bleu.
Un bon petit bleu, là.
Un bon petit bleu. La bleuzaille.
Comment ça s'est passé, la grossesse, pour toi? Tu te souviens?
Pour moi, très cool. C'est pour ma femme que ça a changé les choses. Non, je déconne.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tu te souviens de l'annonce?
Ah, mais bien sûr. Bien sûr, heureusement que j'étais assis. Et je vais même te dire mieux, j'étais assis par terre, sur un tapis.
Assis par terre.
Assis par terre.
Vous dites Joseph.
Bravo, j'allais le dire.
Oh putain.
Bravo. Bravo.
Franchement, vous dites Joseph, membre des...
Des L5. Non, des...
Non,
Quadricolore. Non,
Non, pas quoi... Des L5, je crois, en vrai.
Bah ouais.
Ouais, t'as raison.
T'étais bon au départ.
Et Quadricolore, c'était qui alors ?
Alors, c'était pas Quadricolore.
Ouais, mais après, ça devait
devenir. C'était les Watford.
Ah ouais, les Watford.
C'était Erika.
Et... avec quatre couleurs de l'arc-en-ciel, et quatre couleurs primaires. Tu te rappelles d'ailleurs ?
Bah oui.
Ok, le podcast s'appelle Vraiment les Darons.
Qui... ouais. Pour les jeunes qui ne savent pas, c'était à l'époque où la télé était pas sur la TNT, quoi. Voilà, clairement.
C'est clair, putain, c'était sur M6.
Ouais. T'étais assis par terre.
J'étais assis par terre. Nous étions assis par terre, heureusement. Et donc, on a reçu, en fait, le résultat de, tu sais, de, du labo, carrément. Mm. C'est pas le petit test qu'on achète en pharmacie.
Ouais, le petit test pipi, là.
Ouais, non, c'était pas ça. C'était un résultat de labo. Et donc, on savait pas, parce que, en fait, ça donnait le chiffre.
Ah oui.
Mais pas le, est-ce que c'est...
ah oui, bah oui.
Est-ce que, tu vois? Et c'était fou. Et donc, on a appelé le gynéco, qui a dit, bah, c'est bon, elle est enceinte. Hein. Wouah! Oh, quelle émotion. Dingue. Dingue. Incroyable. Puis encore une fois, c'est l'un des premiers moments où tu réalises que t'aurais été con de pas y aller.
Ah ouais?
À quel point t'aurais été con de pas y aller? Ce bonheur-là, cette émotion-là, cette fierté-là, parce que j'en parle dans le spectacle, donc je peux te le dire à toi, on parle de ça, mais moi j'étais pas sûr de pouvoir avoir un enfant, parce que quand j'étais petit, je me suis fait opérer de ce qui te permet d'en avoir.
Tu veux dire
Yeah. Johnson & Johnson, Smith & Wesson. Et en fait, ils doivent descendre à un moment.
Ouais.
Et parfois, chez les garçons, ils descendent pas. Mm. Et après, il faut les aider. Et donc moi, ils ont clairement été aidés. Et le fait que tu sais que t'as subi cette opération-là et tout ça, t'as quand même des doutes, quoi. Même si tu fais un spermogramme plus tard et tout ça, même si tu passes par des étapes de gars qui sont flippantes, parce que déjà, ben, t'as l'impression qu'on va te dire après si t'es un gars.
Ouais. Quand tu veux dire,
quand t'es un gars,
ça veut dire que t'es fertile,
que tu marches,
ouais,
que tu fonctionnes,
et que ça, il y a un vrai rapport entre
ouais,
la fertilité et le fait d'être un gars.
Salut, ici le Fab du montage. Alors bien sûr, dans ma tête, il n'y a aucun rapport entre le fait d'être fertile et le fait d'être un gars. C'est juste les images qu'on colle, ce qu'on attend de la virilité et d'un homme viril. Mais clairement, entendons-nous bien, ça n'a strictement rien à voir, les gars. Voilà, c'était juste pour vous préciser. J'en profite d'ailleurs, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller écouter mon podcast Histoire de mec. Histoire de mec, histoire avec un S, mec avec un S, sur n'importe quelle plateforme. On parle de masculinité et tout ça. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Si vous avez jamais mis le doigt là-dedans, c'est hyper cool à écouter. Des bises.
Puis surtout, tu te dis, attends, n'importe quel papa qui doit aller, qui s'est fait opérer comme ça, qui doit ensuite subir un spermogramme, n'importe quel futur papa ou wannabe papa, a peur déjà qu'on lui dise non, de revenir de la clinique avec une mauvaise note, et qu'elle parte.
Ah oui, t'avais peur de ça?
Ben évidemment. Tu vois comment elle en rêve. Imagine, t'arrives, tu dis, bah, c'est pas possible. Putain, mais moi, il y a des gens de ma famille à qui c'est arrivé, ouais, ça. Et je pense notamment à un oncle et une tante qui sont encore ensemble aujourd'hui, mais qui ont traversé des mers dans...
Ouais.
Des houles pas possibles. Et je suis admiratif. Je vais les voir à chaque fois que je rentre à la réunion. Je vais les embrasser. Ils me touchent à un point. Voilà. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, si ça marche pas, faites qu'il reste, quoi. Ou, voilà, tu vois, que je perde pas totalement ce qu'elle aime bien chez moi pour que, tu vois, qu'il y ait autre chose, une autre raison à ce que, voilà.
Ouais, après, il y a plein d'autres façons d'avoir des enfants, mais...
Oui, mais...
Disons que...
Ouais.
Oui.
Une fois, je me suis tordu la cheville, et je te jure, j'ai eu des béquilles pendant au moins 3 semaines, mais c'était une grosse entorse.
Où tu vas avec
et
ça
où je vais, que juste, elle me dit, je sais pas, c'est un peu chiant, là, le James Bond qu'une fille aime bien voir, là, il est vraiment mal en point, quoi. J'ai eu droit...
Ah ouais. Petite presse, quoi, petite pression, là.
Voilà, donc, gars, quand tu vas faire ton spermogramme, je te garantis que... Et que t'es pas Daniel Craig...
ok. Tu racontes le spermogramme, d'ailleurs. Moi-même, j'ai fait un spermogramme, puisque je me suis fait opérer d'une vasectomie, tu sais.
Ah ouais.
Voilà, donc il faut faire un spermogramme après. Mmh. I can relate le spermogramme, cette expérience de vie, finalement, qui est intéressante.
La solitude du gars, dans ce moment-là, elle est... Elle est, enfin, franchement, tu. Après, tu vois ta femme qui se fait quand même 9 mois de grossesse et un accouchement, donc tu la ramènes pas trop non plus. Mais c'est vrai que ce jour-là, dans la vie d'un gars, il y a très peu de meufs hein, qui viennent faire le spermogramme. Donc ce jour-là, dans cette clinique, dans cette salle d'attente où aucun gars ne se regarde dans les yeux, tout le monde regarde par terre, il y a un autre truc à faire. Et limite, les gars, ils pourraient refaire leur ourlet tellement, pour pas avoir à lever la tête. Tellement il y a zéro solidarité, c'est un peu chacun sa gueule. Tout le monde est là pour la même raison. Tu vas aller de paluchman dans un flacon transparent, dans une pièce prévue à cet effet où le flacon est transparent, quoi. C'est-à-dire que quand tu sors, tu mets toute ta main autour parce que tu veux pas qu'on voit ce que t'as réussi à récolter, puisque évidemment, tu dois viser ça pendant le moment où tu peux le moins viser au monde. Donc, ben, forcément. En ambiance mari à tout prix et Ben Stiller.
Ah yes.
Il y en a un peu là.
Yes.
Donc tout ça, tu le vis en solitude. Après le soir, tu te dis putain, il faut que je rentre pour lui raconter.
Comment s'est passé l'accouchement? Quels sont tes souvenirs de ce moment?
Mes souvenirs de ce moment sont. Tu vois, j'ai lu un truc après, comme quoi, et surtout au niveau de la maman, la douleur, la souffrance, etc., s'oubliait pour que les humains puissent ensuite y retourner.
Bien sûr.
Que les femmes puissent avoir d'autres enfants. Parce que ben, sinon, tu n'y vas plus, en fait.
Oui.
Et y a aussi ça dans le moment que tu vis en tant que papa. Moi, j'ai eu la chance qu'on pratique un peu l'aptonomie.
Oui.
Et on a rencontré une médecin géniale qui s'appelle Gaëlle Hubert. Je vais la citer.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour Gaëlle. Bonjour docteur.
Bonjour docteur.
Parce qu'elle est médecin, elle est pédiatre.
Ok.
Et aptonome. Elle pratique l'aptonomie. L'aptonomie, c'est une façon aussi pour le papa de se rapprocher de son enfant pendant la grossesse. Et donc d'être un peu plus impliqué que juste dire « Ça va ? T'as pas l'air bien ? Tu veux que je te fasse des pâtes ?» Voilà, c'est juste voilà, dire autre chose. Et donc j'ai eu la chance nous avons eu la chance de rencontrer Gaëlle et de suivre ses conseils voilà tout au long d'une bonne partie de la grossesse de ma femme. Et l'accouchement a été un peu aussi si tu réussis à faire fi de l'émotion, la mise en pratique un peu de ce qu'on pouvait avoir appris, surtout moi et le papa aussi, hein, parce qu'après, elle avait fait un autre taf quand même.
Bah oui.
Mais la mise en pratique de ce que t'avais appris avec Gaëlle pendant tous ces mois-là, quoi. Donc le self-control, le hurlage dans l'oreille. Oh, non, je déconne.
1-2, 1-2,
allez ! La sage-femme m'avait dit, qu'élevez-vous, monsieur, vous êtes en train de faire accoucher tout l'étage.
C'est vrai.
Tellement je gueulais. Non mais tu sais, tu vois, t'as mal pour elle quoi. Tu te dis ouais. Putain, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais allez-y, vous mettez les mains dedans. Vous voyez bien qu'elle souffre. C'est
la première fois moi de ma vie que j'ai souffert autant par procuration.
Exactement.
Je ne connaissais pas ça quoi. C'était fascinant.
Exactement.
À vivre.
Exactement. Pareil. Et d'habitude, c'est t'as toujours un peu le malin. Je fais, attends, bouge pas. Je suis allé voir. C'est vrai que c'est pas normal ce bruit. Alors que tu te chies dessus au fond, toi. Mais là, tu peux même pas faire ça quoi.
Ouais. T'étais content d'avoir une fille?
Ah ouais. Alors je ne savais pas que je serais aussi content que ça.
Ok.
J'ai toujours su qu'une femme bouleverserait ma vie, mais j'imaginais pas qu'elle serait si petite.
Allez là.
Voilà.
Mic drop. Allez. Fin du podcast. C'est marrant parce que je t'entendais, je crois, chez Guillaume Play. Il ouais. était en train de te demander. Ça fait quoi? Ça bouleverse la vie et tout. Forcément, c'est des genoux, ils savent pas quoi, mmh, tu vois. Mmh. Et t'étais là, bah oui, c'était oui.
Bah non,
c'est dur à expliquer.
C'est là
ça.
Que j'ai dit cette phrase.
Ouais, bien sûr.
C'est chez lui que j'ai
ouais,
dit cette phrase-là.
J'ai entendu.
C'est vraiment, ça résume. Tu repenses à toutes tes fois, toutes tes déceptions amicales, amoureuses, évidemment, d'enfance, d'adolescence, où t'as des filles qui t'ont brisé le cœur. Moi, ma mère, elle m'a même dit, mais je vais aller la voir, hein, cette fille, hein. Je vais aller la voir, hein. Et tu vas, elle va m'entendre. Hein. Ma mère a dit ça, tu vois. Et en fait, ce sera même pas elle ouais. qui t'aura bouleversé le plus, alors que t'avais envisagé de te foutre en l'air.
Putain.
Bon, c'était un foutage en l'air de troisième.
Oui.
Donc, au Doliprane. Mmh. C'est pas non plus très très grave, mais t'étais pas mal, t'étais pas bien, quoi. T'étais pas bien, vraiment pas. Ma mère m'a changé d'école, hein, tellement j'étais pas bien.
À ce point, ok.
Ah, ouais.
Ok, ok.
Mais le vrai pas bien, c'est là. Et il est en même temps que le bien, en fait. Parce que t'es hyper content, hein. T'es hyper content, t'es hyper fier, t'es heureux, t'es... Mais tu deviens la personne la plus responsable du monde en deux secondes. C'est ce que je dis en spectacle, c'est-à-dire que tu pars à deux, tu rentres à trois. Pour toujours. Mmh. T'étais deux depuis toujours, et là, tu rentres à trois pour toujours. Et tu te dis, mais attends, c'est nous qui... Des gens vont nous aider, vont nous guider. À part le bouquin de Laurence Pernoud, on fait quoi exactement, là? Qu'est-ce qu'on fait, là? Dans cette petite chose qui ne compte que sur nous. Qu'est-ce que je fais quoi, là, en fait? Donc, je vais apprendre sur le tas, mais là, est-ce que j'aurais pas déjà dû faire quelque chose, là? Ça fait 10 minutes qu'elle est dans la maison. Est-ce qu'on peut la poser par terre dans le maxi-cosy? Est-ce que c'est pas trop près des poils du tapis? Ah, première question. Ah, tu vois? Mm. Et là, ma mère, elle me dit, ah, tu m'appelles.
Ça vous a rapproché?
Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Puis mes parents étaient tellement sévères que là, je vois une grand-mère d'une douceur. Enfin, ma mère, c'est une autre femme, en fait.
À ce point?
Ah ben oui. Il y a un comique américain qui avait dit un truc trop bien. Il a dit, putain, j'hallucine sur comment mes parents sont des grands-parents de ouf et comment mon enfant s'entend bien avec mes parents, quoi. Et en fait, pourquoi ils ont ce point commun? Pourquoi ils s'entendent bien, les grands-parents et les enfants? Parce qu'ils ont le même ennemi, moi.
T'as une éducation, on peut dire sévère, mm-hmm. à la créole, comme tu dis dans le spectacle.
Ah, de ouf.
T'es réunionnais, hein, pour celles et ceux qui savent pas.
Mmh. Ouais, très sévère.
Comment t'as fait pour transposer et pour, tu vois, t'inspirer d'une manière ou d'une autre de cette éducation? J'imagine d'en prendre des trucs, parce que j'imagine qu'il y avait plein de choses bien dans ton éducation, et de filtrer, tu vois.
Déjà, il faut dire une chose, c'est que j'arrête pas de charrier mes parents sur la sévérité et tout ça. Quand tu deviens parent toi-même, tu comprends certaines choses plus facilement, tu excuses presque plus de choses à tes parents, des endroits, des moments où ils ont pu merder, tu vois. Parce que tu merdes forcément. Mmh. Il y a des trucs que tu fais pas forcément bien. Tu restes humain, et tu deviens d'ailleurs, quand tu es parent, encore plus humain qu'avant de l'être. Donc un humain, eh ben, ça merde. Et ça, je dois dire que après avoir reproché ça, puisque j'ai eu mon enfant tardivement, on l'a dit tout à l'heure, pendant des années à mes parents, dire ouais, et ça, quand vous m'avez fait ça, et ça, quand vous m'avez puni ce jour-là, je me souviens de tout.
40 ans.
Ouais, à 40 ans. Tu vois ton enfant dans le maxi-cosy, tu te dis, ok, il y a vraiment une latitude, une possibilité de merdage qui est folle.
Infinie, ouais.
C'est-à-dire, déjà, tu te trompes du nombre de dosettes de lait en pleine nuit. Et tu te dis, merde, je crois que j'en ai mis une de trop. Boah, est-ce que c'est grave? Et donc, tu restes devant l'enfant qui dort, en attendant qu'il se passe un truc bizarre. Tu te dis, je vais pas aller me coucher, là, parce que si je vais me coucher et que... T'attends, tu mets ton doigt sous son nez pour voir. C'est bon. Attends, il bouge pas trop, là. Tu donnes un petit coup dans le lit. Tu fais des délires de fou.
T'as fait ça.
Mais évidemment que j'ai fait ça. Tu vois, avant 3 mois, s'il y a de la fièvre, c'est les urgences, ça, je le dis dans le spectacle d'ailleurs. Mmh. Et il y a eu de la fièvre une fois avant 3 mois. Mais j'ai même pas réfléchi. Je fais, allez, hop, on l'habille, urgence, c'est parti. Bam, on est monté dans la voiture, rah. On est allé aux urgences, et là, putain, là, les gars, c'est costaud, enfin, tu vis des émotions. Et là, en fait, tu n'es papa que depuis 2 mois. Mes parents ont réussi à le faire pendant quasiment 40 piges. Mon père n'est plus là, mais ma mère est toujours là. Oui, tu peux merder un peu, quoi. Hein. Voilà. Ou beaucoup, parfois, tu vois, c'était à l'ancienne, c'était à la dure, tu vois. C'était pas éducation positive ou Montessori, tout ce bordel-là. Moi, c'était pas ça.
C'était plutôt... C'est quoi la phrase de ton père qui dit?
Il y avait des petits fouets prêts à usage dans la commode, qu'on appelait les produits du tiroir. Avec mon frère. Les produits du tiroir.
On en rit, mais c'est horrible.
C'est pas du pâté. Mais non, mais c'est horrible. Puis à la fois, bon.
C'était une autre époque, quoi.
Ouais, j'en ris parfois. Franchement, j'en ris pas toujours. Mais. Je suis là.
Je me faisais courser par ma daronne avec le martinet, quoi,
ouais.
Tu vois.
Aussi.
Bah ouais.
Bah voilà.
À l'ancienne, hein.
À l'ancienne, de ouf.
À l'ancienne, avec mon frangin, on enlevait les fils du martinet un par un, tu vois.
Ah, c'est bien ça.
Planqué.
C'est génial, c'est drôle.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, moi je raconte ça autour de moi à des gens qui ont grandi à Paris, voilà, à qui on a toujours parlé comme ça. C'est hyper violent, quoi. C'est violent. Même l'évocation même de... Putain, c'est violent. Tout est violent, ce que tu racontes. Et ouais, mais bon, voilà, quoi. Je suis là. Après, t'es un peu... T'es plus ou moins fracasse à l'intérieur, ouais. On réussit à faire un métier qu'on aime, on réussit à en rire, à en faire rire peut-être les gens, d'autres que ça a moins fait rire avant, peut-être qu'ils réussissent à le relativiser aussi, ouais. Je sais pas, on sert à ça. J'aurais pas pris de beigne, ou toi deux, trois coups de martinet, on serait peut-être pas là. Bon, tu me diras, on serait peut-être en train d'inventer un nouveau vaccin, d'être des gars vraiment chambés, mais en fait...
Ouais, j'allais te dire, qu'est-ce que t'as fait de cette colère, toi?
Je la joue.
Ouais, c'est ça.
Je la joue, bien sûr. Il faut la jouer. Et puis surtout, je pense que parfois, c'est pas mal aussi quand tu te mets en colère contre les enfants de savoir et ne pas oublier jusqu'où peut aller une colère. Et comme tu l'as vécu, je sais qu'il y a un endroit où je veux plus aller. Je veux plus aller.
Et t'arrives à la...
Oui, bah ça,
à la contenir, enfin tu vois.
Oui, ça oui. Parfois, je me mets vraiment en colère et je dis, bon vas-y, toi tu gères, je dis ça à sa maman et je me barre.
Ce qui est la meilleure des choses à faire. Hein.
Parce que je veux pas, même pas faire, mais voilà, t'es contente. Voilà, ce truc de merde.
Oui.
Tu passes vraiment pour... et après tu t'en veux de ouf, tu dis, putain, tout ce que je veux pas être. C'est difficile, hein. C'est très difficile. Et là, tu gueules une fois, tu dis putain papa, j'ai été un peu en colère pour rien quoi. Enfin, pas pour rien, mais c'est tellement facile d'aller là-dedans quand tu n'as connu que ça. Lui certainement n'avait connu que ça.
Oui.
Nos parents sont des enfants d'autres gens. Hein.
C'est et je crois que c'est pour moi, c'est... moi j'ai compris ça le jour où je suis devenu moi-même parent. Voilà, quoi. Ouais.
Moi aussi.
Tu fais ok, donc il y a un moment donné, il y a de la transmission, quoi, tu vois.
Exactement.
De génération en génération.
Je crois qu'on va se galocher.
Super, en exclusivité.
Nos parents sont les enfants d'autres gens. Non, mais c'est vrai. J'ai réalisé ça aussi, quoi. Quand ma mère, aujourd'hui encore, à 70 ans passés, me parle de ses parents, il y a à la fois, dans son regard, une tendresse et une nostalgie et un amour qui est encore là. Pour des gens qui sont partis il y a quand même très très longtemps, que nous on a même peu connus, moi un peu plus que mes frères et sœurs quand même, et de l'autre, dans l'autre œil, il y a une forme de colère, il y a du ressentiment parfois, tu vois. Des trucs, ouais, ça ils n'ont pas été là-dessus, ils n'ont pas été. C'est pas le jour où ils ont été le plus illuminés, tu vois. Et après, nous, ben, c'est à nous de naviguer dans là-dedans, entre ces vagues-là et avec ces vagues-là. Avec ce temps-là, cette météo-là, qui n'est pas toujours clémente, quoi. Mais... Ouais.
Ton père est décédé,
ouais.
Il y a quelques années.
Oui, il y a bien un moment, ouais. Il y a... En 2007.
T'as fait la paix avec lui?
Ça va jusque-là, le podcast.
Ah bah, en fait, mais, en fait, c'est pour ça que j'aime bien parler de paternité, c'est parce qu'en fait, on récupère souvent... J'aime bien parler d'éducation qu'on a reçue de notre propre père, quoi, tu vois.
Oui, oui.
On n'est pas obligé d'en parler après, hein. Je ne l'ai pas dit, mais en vrai...
Non, mais je vais te le dire.
Si c'est trop perso, j'ai pas de...
C'est hyper perso, mais comme c'est naturel, ça coule de... On s'est dit d'autres choses avant. Ça aurait été la première question, ça aurait été... Putain, ça démarche.
Alors Manu, alors...
Ton père est mort, t'as fait la paix avec lui.
Je veux dire, et notamment par rapport au père que t'es aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Oui, je une partie de moi, en fait, je pense que tu vis le temps de faire la paix. Et peut-être même qu'après tu meurs, si ça marche pas quand t'es en vie, tu vas la faire là-haut directement.
Ok.
Tu vois, dire bon, écoute, j'ai essayé, hein, mais putain, t'as été trop relou là. Donc, je préfère te le dire en face. Alors, ça m'arrange pas parce que je suis mort. Ça me fait penser à un sketch de Dupontel que j'adorais quand j'étais ado. Et il meurt. Et tu le vois rentrer sur scène après un gros bruit d'accident de bagnole. Il a des grandes ailes d'ange.
Ah oui,
sur le dos.
Je me souviens.
Il est très très vénère. Et il rentre et il va voir un gars, mais super vénère. Juste après l'accident, les ailes d'ange, toi tu captes que le gars est dead. Et là, et il va voir un mec. Il dit, dis donc, connard, quand tu tournes, ça ne vient pas à l'idée de mettre ta flèche? Et donc. Et là, il attend un peu, il regarde vers genre Dieu et il fait « Je parle pas à toi, grand con !» Et toi. Et là, en le voyant, il réalise que c'est Dieu. Il dit « Attendez, c'est quoi le délire, là ? Attendez, je suis mort, là ? Je suis mort ? C'est pas possible, ça... je vais être en retard ?»
C'est faut aller voir les sketchs du Pontel jeune.
Ah ouais.
C'était là, à l'époque, où ils disaient « Je vais aller voir Rambo !»
Ah bah ouais.
C'était le même spectacle.
C'était une merveille. Mmh. Il y en a deux des spectacles, de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ils sont même. Ils existent même en DVD.
Ouais. C'est ouais. Ça, achetez le DVD, pardon.
Ouais, non, enfin, allez les voir, vous pouvez les trouver surtout, mais déjà, d'avoir. Soyez curieux, allez voir Dupontel. C'est vraiment bien. Et puis surtout, il y a des trucs aujourd'hui, vous ne pourrez plus les faire. Donc.
Ça, c'est clair.
Il y a un hommage à lui dans ce spectacle encore. Il y a un hommage au sketch du bac. Quand je dis Jean-Paul Sartre. Parce que quand lui il interrogeait Jean-Paul Sartre. Et je le fais ça, Jean-Paul Sartre. Puis c'est un petit hommage.
Je l'avais pas capté sur le moment.
C'est ouais. C'est un petit hommage, tu vois, façon genre impressionniste quoi.
T'appelles ta femme De Gaulle dans le spectacle.
Ouais. C'est moi en fait De Gaulle.
C'est toi De Gaulle.
Moi je suis vraiment plus l'inquiet, le truc. Vous avez donné les médicaments. Oui, je sais. Oui, bah là, on est allé faire du cheval ou je sais pas quoi. Enfin, ils sont partis en week-end, par exemple. C'est moi qui envoie le texto « Pensez au médoc ». Ou alors, tu parles à ta fille. « Maman, t'as donné ton... » « Oui, papa. » Là, je suis ce gars-là. Mais il en faut un, en fait. Franchement, j'aurais préféré être l'autre. Hein. Le pas inquiet, en fait. Tu vois.
Mais tu peux changer, ça.
Non, c'est... Ouais.
T'y arriveras pas, tu crois?
Non, je pense que j'y arriverai pas. Je pense que j'y arrivais pas. En fait, je le suis beaucoup moins qu'avant.
Ok.
Je le suis vraiment beaucoup moins. Je pense qu'il faut que je le sois un peu. Déjà pour compenser avec les moments où je trouve que je merde.
Ok.
C'est-à-dire quand j'ai gueulé, trucs comme ça. Bah au moins, elle aura pris son médoc. Tu vois, quand j'ai gueulé sur les chaussons. Ils sont où tes chaussons? Je t'ai acheté des chaussons. Ils sont où tes chaussons? Tu m'as dit que tu les aimais bien. Ok, super. Il est où l'autre? Je passe ma vie à dire il est où l'autre, ça me rend ouf, mais je peux pas m'en empêcher quoi, je peux pas m'en empêcher. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit hier, après le spectacle, vous savez que le froid ou le rhume ou je sais pas quoi ne s'attrape pas par les pieds.
Hein. Bien sûr.
Ni par les pieds ni par la tête. J'ai dit alors pourquoi ça fait depuis que je suis né moi qu'on me dit de mettre des chaussons alors que j'ai grandi sous 40 degrés.
Faut demander à ta daronne.
Bah oui, et bah, tu sais quoi, je lui ai demandé, même elle, elle sait plus la peau. Hein. Sauf que moi, elle m'a légué le bordel.
Ouais.
Et voir ma fille sur du carrelage froid pieds nus, ça me rend un peu ouf. Et j'essaye de me dire, c'est pas grave, laisse tomber. Et évidemment, elle va tousser. Et ben voilà, tu sais pourquoi tu tousses.
Regarde, ça t'apprendra.
Voilà, tout simplement, parce qu'il n'y a rien sous tes pieds. Tout simplement. Voilà. Après, on dit papa, papa, mais bon, papa, il sait des choses. Il dit de la merde surtout, ouais.
T'es en train de lui refiler le boulet en plus.
Oui, arrête, ne me dis pas ça. Putain, je vais aller m'installer ailleurs dans un tout petit truc où vraiment j'aurais plus de contact avec elle.
Mais non, voyons, c'est pas ça.
Non, mais il faut que c'est vrai, mais t'as raison. Et c'est pour ça que parfois je m'en vais. Où je dis, tu sais quoi, gère ce truc parce que je.
Tu sens que tu.
Ouais, parce que je veux pas transmettre ce truc-là, tu vois. Tu vois déjà tout ce que t'as transmis malgré toi. Tu vois déjà tout ce que t'as pu transmettre malgré toi. Bah, beaucoup tu fais ça. Alors tu sais que ne t'embarque pas là-dedans parce que papa le fait depuis longtemps et ça c'est vraiment pas un cadeau que t'es en train de te faire.
Arrête de fumer des clopes. T'as arrêté de fumer des clopes ceci.
Et personne ne fume des palmales. Moi j'ai arrêté, ouais. J'ai arrêté.
Bravo.
Merci.
Toutes mes félicitations.
Merci. Tu peux et je les prends. Je suis fier de moi.
T'as bien raison.
Je suis fier de moi. Hier soir encore, tu vois, j'étais avec des copains où ça rigolait en buvant des coups et ça sortait des clopes de manière assez naturelle. Je me dis tiens, je pourrais. Tu vois, là, je fume. Il y a quelques années, j'aurais tellement sorti une clope là.
Là maintenant, là.
Non, non, de hier soir.
De hier soir.
Non, là, pas là. Mais après le podcast, là, bon bah merci Manu, clac, on plie. Je sors avec toi, on fume une clope, tu vois. C'était même une façon de se dire au revoir, quoi.
Ouais.
Tu vois. Mais je n'ai plus ça. Et apparemment, tu fumes encore ?
Ah, j'ai jamais fumé.
Ah, bravo.
Mais en revanche, je sais à quel point c'est dur. Donc,
ah, bah, tu sais vraiment, parce que ça se voit dans ton regard. Mais comment tu vois ?
Alors, j'ai un très bon ami qui a arrêté, qui a fumé toute sa vie, qui a arrêté de fumer pendant 10 ans et qui a repris le jour de son divorce.
Ah, putain. Ah, ouais. Faut toujours être humble. Il y avait une fille qui m'avait dit ça un soir, trop mignonne. Ça s'appelait Faustine d'ailleurs. Elle s'appelle Faustine.
Faustine, si tu nous écoutes.
Ouais. Elle m'a dit c'est cool, Manu, t'as réussi à arrêter et tout. Ça faisait quelques mois là, mais reste toujours humble. La clope, c'est comme une ex avec qui le cul c'était trop bon. C'est très bien qu'il faut pas que tu la recroises dans les moments de fébrilité, tu vois.
Et bah voilà.
Tiens.
10 piges plus tard. C'est ouf hein, quand même.
Et ouais.
10 piges. Apparemment, ça tresse dans la tête 15 ans.
Mais attends, je vais te dire, j'ai rencontré un gars qui avait arrêté pendant 23 ans en se faisant coudre un fil dans l'oreille. C'est pour ça que je suis allé faire ça. Je l'ai fait, moi, auriculothérapie.
Ok.
Tu te fais coudre un fil dans l'oreille sans anesthésie, ça fait un mal de chien. J'ai rencontré ce mec-là, il me dit, ah ouais, moi j'ai 23 ans. Et ben, il a repris. T'es jamais tranquille. Quoi. T'es jamais tranquille. Et t'es jamais à l'abri.
T'as arrêté pour ta fille aussi ou pas ? T'as arrêté parce que t'avais peur de la mort ?
Pourquoi je réfléchis à ça ? C'est parce que j'ai essayé d'arrêter pour ma fille. Et j'ai pas réussi. Et je m'en suis vachement voulu.
Ah.
Je m'en suis vachement voulu de pas y arriver à la naissance de mon enfant. Je me vois très bien descendre de la maternité dehors comme un con, il fume une clope sur le trottoir en me disant putain, je suis en train de fumer une clope, quoi. Le mec vient d'avoir un enfant, il descend, fume une clope, quoi. Tu vas remonter, tu vas puer, tu vas empester la chambre et tout. Et non, tu le fais quand même. T'es en train de le faire. Et franchement, je m'en suis voulu de ouf, mais de ouf. Et puis, je me suis dit, ok, il va falloir qu'à un moment tu réussisses, Manu. Je voyais ça vraiment infranchissable.
T'étais un gros fumeur, hein, si j'ai bien compris.
J'étais un gros fumeur de toi en soirée et tout. Mais comme les soirées, il y en avait plein.
Ouais,
j'étais un gros fumeur. Mais je fumais pas 3 paquets par jour. Ouais. Non, mais je pouvais fumer une clope le matin avec mon café. Ouais.
Ouais. Ce qui est pour moi la définition d'un bon fumeur.
Là, ouais.
Ouais.
Toi. j'avais hâte du café pour pouvoir prendre la clope.
Ah,
avec,
yes.
Je me souviens de ce délire, tu vois. Je sais ce que ça procure. Et je respecte absolument celles et ceux qui nous écoutent là et qui sont peut-être en train de fumer en nous écoutant là. Franchement, je respecte de ouf. C'est pas la peine de l'éteindre. C'est chacun son timing.
Bah oui.
Chacun son timing. Il y a un moment où vous allez arrêter, de toute façon. Voilà. Ce qu'il faut comprendre chez un fumeur, une fumeuse, parent ou pas, mais parent surtout, c'est vrai, c'est que il y a une angoisse chez le fumeur, chez la fumeuse, à s'imaginer non-fumeur.
Ah, yes. À ce point ?
Bien sûr.
Ok.
Tu sais pas comment tu faisais quand tu fumais pas. Ça fait longtemps que tu fumes. Tu dis, mais attends, là, par exemple, ce moment-là, où moi, j'allume d'habitude une clope, là, on fait quoi, par exemple, à ce moment-là ? Tu peux poser une question aussi bête, tellement c'est vertigineux pour toi de t'imaginer ne pas fumer. Un mec qui va chez un hypnotiseur et qui espère sortir de là non-fumeur dans une vingtaine de minutes, il pense qu'à une seule chose, c'est fumer tellement... Le fait de s'imaginer non-fumeur dans 20 minutes, le stress.
Ça marche bien, cette saloperie.
C'est hyper bien fait. C'est mieux qu'un iPhone.
D'ailleurs.
Bah, c'est aussi cher.
Ouais, c'est beaucoup plus cher. C'est 40 000 balles, non ? 40 000 euros sur une vie.
Ouais, je sais pas. Fumeur. Il en parle beaucoup de l'argent dans le bouquin. Moi, c'est le bouquin qui m'a aidé
D'Alan Carr, là.
Ouais, ouais.
Le fameux.
Ouais, du rapport à ça. Moi, je te jure, quand j'ai vu le prix de l'hypnotiseur que j'étais voir et tout... ça coûte une blinde, mais c'est tellement priceless de réussir à s'en débarrasser. Ça n'a tellement pas de prix que, en fait, d'imaginer qu'un gars, et c'est pour ça que j'en parle dans le spectacle, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour et de respect pour celles et ceux qui galèrent et qui essayent de s'en défaire, et celles et ceux qui se disent putain, quand même, il faudra qu'un jour j'arrête. Je le dis vraiment avec en connaissance de cause, mais dites-vous que si un gars né en 75 qui a acheté la Mano Negra sur CD, qui avait des docs et qui a fumé des clopes Chevignon, parce que ça a existé.
C'est vrai ça.
Ça a existé. C'est-à-dire que tu voulais la doudoune à tout prix.
Il faisait la doudoune avec le canardos,
moi,
quoi.
Avec le canard. Mais moi, la doudoune, je la portais pas. Je vivais à La Réunion, il faisait trop chaud. Donc, je fumais les clopes. Dites-vous que si un gars comme ça, il a réussi à arrêter, anybody can do it. Trust me on that. Tout le monde peut le faire. Bravo. Des petites traductions, comme à la fin
oui.
des pubs.
Jacques Toubon.
C'est Jacques Toubon, ça? C'est, ah, c'est marrant, ça.
C'est le tout bon qui oblige à tout traduire. J'ai entendu que ta fille, t'as supprimé ton spectacle. Enfin, t'as supprimé tes notes.
Ouais.
Truc de ouf, sur ton téléphone.
Mmh. Truc de ouf. Elle s'est dit... alors, c'est un acte moqué, mais trop... Finalement, après la panique que ça a provoqué chez moi quand j'ai découvert que j'avais plus une seule note, après avoir noté des choses pendant deux ans...
Mais donc, ta fille, elle est allée dans le bon fichier, dans le bon
ouais,
truc.
Ouais, bah elle est allée dans le téléphone d'un papa qui a laissé traîner son téléphone.
Ouais.
Voilà, donc il n'avait pas à traîner, donc déjà, c'était de ma faute. Ouais. Parce que nous, elle ne joue pas avec nos téléphones, elle n'a pas le droit aux écrans comme ça.
Donc en plus, il y avait une transgression quand...
Totalement, ouais, okay. Totalement.
Je croyais que tu sais, c'était en jouant, genre...
Non, non, pas du tout.
Jeux d'enfants et tout, là, tu vois.
Où est-ce que j'ai mis mon téléphone Puis elle est allée, elle voulait écrire des lettres, donc en plus, je peux pas lui en vouloir, elle est pas allée pour mater des films, elle est allée pour essayer d'écrire. Et elle les a écrites à la place de mes notes de spectacle. Donc j'ai une dizaine de lignes de majuscules à la place de mes notes de spectacle. Voilà, voilà. Et avant de tomber dans les pommes, ce que je n'ai pas fait finalement, j'ai fini par sourire en me disant qu'elle ne voulait pas que je reparte en tournée.
Putain.
Et qu'elle avait pu se dire, si papa n'a pas de texte, il rentrera plus vite.
C'est dur pour toi, parce que là tu te barres bientôt en tournée. Hein. Tu joues, je ne l'ai pas dit, mais tu joues au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 1er avril. Mm. Et après, hop, c'est parti quoi.
Après, parti dans toute la France.
Ouais. Ça va être dur pour toi de...
Non, mais j'essaie de jouer vraiment que trois fois, maximum de temps en temps, quatre par semaine, ce qui est déjà compliqué à faire physiquement, parce que c'est fatigant. Les trois jours qui restent, je suis en général chez moi. J'essaie de rentrer trois jours par semaine. Donc oui, c'est compliqué parfois, ta vie te manque, ton enfant te manque, bien sûr, mais j'essaie de rentrer. Et puis j'essaie de rentrer avec des histoires ou des cadeaux. Quand j'ai joué à La Rochelle, en Charente, devine ce que je lui ai rapporté.
Des moules.
Des charentaises. Des chaussons. Et je lui ai dit, ça c'est des vrais. Hein. Ça c'est les vrais là. Donc je compte sur toi, d'accord?
Le mec est obsédé quoi.
On me les a offerts, c'est un spectateur qui me les a offerts, trop mignons.
Ah oui, t'es pas allé lui acheter à sa taille et tout. Ah si.
Bah,
c'est taille d'enfant.
Ouais, taille d'enfant.
Waouh.
I know.
Quel génie.
Je peux reprendre un bout de fromage?
Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir.
Oh god. What a life.
Petit bleu là.
Ouais, le petit bleu il est bien. Tu veux pas toi?
Écoute, non, ça va, merci.
C'est spéco ça, de dire non du fromage. Hein.
Je mangerai après.
Ah voilà, ouais.
Un petit bout. T'inquiète.
Ça fait de toi un gars chelou. Hein. Un gars qui reprend,
je n'aime pas. Ah, mange pas de fromage.
Il doit vraiment être à mon papa. Hein.
Non.
Mon père, il m'avait dit un jour.
Pourquoi tu crois que je fais un podcast sur les.
C'est la culpabilité.
Oui.
Mon père, il m'avait dit un jour sur un mec, lui fais pas confiance, à celui-là, il mange rien. Pas mal, hein.
Ouais.
Pas mal.
Pas mal.
J'ai regardé son assiette, elle était pleine. Puis il arrêtait pas de parler, tout, il bouffait pas. J'ai dit, putain, soit mon père est ouf. Soit il a raison de ouf.
Et alors?
Ouais, il a raison de ouf.
Ouais.
C'est pas tant qu'il fallait pas lui faire confiance. C'était surtout que tu veux pas passer trop de temps avec des gars qui bouffent jamais rien.
Oui.
Qui font.
Oui.
Pas des kiffeurs.
Des fumeurs de clopes, des mecs qui.
Ah ouais, moi j'ai. Ah ouais.
T'as pris tout de suite ta voix de fumeur.
Ah bah ouais. Fumeur de clopes qui dit bon, on verra demain. Comme disait Goldman, je commence demain.
Putain, ça, j'ai pas cette rêve, tu vois, par contre.
Eh ben, c'est un gars qui dit qu'il fera tout demain. Tu vois.
Ah, yes. Mmh. Mmh.
Je sais bien. Dun, 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 dun. Je commence demain. J'arrête de fumer, tout ça.
Ouais.
Je suis un meilleur papa.
Tu partages de la musique avec ta fille?
Bien sûr.
Elle joue, tu l'as mise à un instrument, là, ou pas?
J'essaye, là, de m'intéresser au truc, mais c'est toujours...
Parce que là, elle a 6 ans, c'est ça?
Ouais.
C'est le moment.
C'est le moment, ouais. Mais j'essaye de pas la forcer, de lui donner envie et qu'elle en ait envie elle-même, quoi. Mais c'est vrai que j'ai souvent la guitare dans les mains et tout ça, et donc ce qu'elle voit, elle en a pas forcément envie.
Ouais.
C'est une évidence, donc c'est là. Parfois je lui dis prends la guitare, etc. Viens Corinne, bien sûr.
Bonjour.
C'est Corinne. La caméra elle est sur la table de dos. Et donc je Il est déjà
ouais,
ah ouais, dis donc, ouais.
On va boucler.
Ah oui, parce que quand Corinne prend la caméra, c'est
faut aller travailler. Hein.
Ouais, faut. C'est qu'on va pas tarder à.
Quoi, t'as du mal à faire basculer ta fille dans ta passion, quoi.
Ben, je comprends.
Ou à l'intéresser, en tout cas.
Et je comprends. Donc, j'essaie de passer par autre chose, de pas être trop frontal. J'essaie de pas dire, t'es sûr que tu veux pas faire du piano? Tu vois, j'essaie de pas trop être ce gars-là. J'essaye de qu'elle aime le truc. Je sens qu'elle a un truc, je le vois bien. Après, elle n'a pas forcément à être musicienne ou voilà. Je suis sûr que moi, de savoir jouer d'un instrument, ça aide ailleurs. Et pas forcément pour faire des concerts à la Philharmonie ou tu vois en première partie de Radiohead. Ouais. C'est ça aide ailleurs de savoir jouer d'un instrument. Ça ouvre d'autres choses.
Tu veux dire qu'il y a une forme de déjà d'exercice, de pratique, de faire en sorte de taffer dessus, c'est ça?
Ouais. Bien sûr. Et puis il y a une oreille du coup qui se développe, il y a une écoute, il y a un rythme, il y a un sens du rythme, il y a une attention particulière pour des choses que tout le monde ne voit pas toujours forcément, tu vois. Les musiciens, ça reste, c'est un délire, les musiciens. Et mon frère est musicien, est un bon musicien, moi je suis un déconneur. Mon frère est bon. Et la guitare lui a apporté énormément.
Mmh.
Énormément. Aussi en paix intérieure et tout ça.
Ah ouais. Ouais, il y a un côté méditatif, c'est ça, genre.
Carrément, bien sûr, ouais. Tu t'enfermes avec ta gratte et puis tu cherches de la musique, c'est quand même... c'est cool, quoi.
Ouais, clairement.
C'est mieux que d'aller t'enfermer sur Insta aux chiottes, quoi.
Tout à fait. C'est quoi le truc que tu détesterais que ta fille fasse? De l'équitation, par exemple?
Ah ouais. Pourquoi tu dis ça? Comment tu sais ça?
Parce que, bah déjà, tu parles des chevaux.
Ah oui, d'accord.
Mais surtout parce que, donc j'en suis à mon 150e épisode, et systématiquement, il y a un vrai truc où les enfants font un truc que tu détestes, toi, en tant que parent.
Ah ouais.
Et là, tu te retrouves comme un connard. Et en fait, ça t'ouvre aussi des portes, tu vois. Imagine ta fille, elle t'ouvre au canasson.
À son amour du cheval, ouais.
Ouais.
Pff, putain, ouais. Déjà, pardon, mais faut y aller.
Alors oui.
Déjà, tanas.
Ouais.
Deuxième tannée, les gens de cheval qui nous écoutent sont les gens les plus raides sur les horaires. J'ai jamais vu ça de ma vie.
Ah ouais, ok.
C'est-à-dire que oui, on va pour le cours de 16h, on va avoir un petit peu. Ah ben alors nous on part à 16h. D'accord, mais comme il n'y a que elle et vous êtes peut-être que ça pouvait être cool 16h, 7, 8. Voilà. On est sur un départ 16h. D'accord. Parce que là, il y a parce que comme vous êtes là-bas, au centre équestre, et qu'il n'y a que vous et le cheval, on est d'accord, hein, et que la troisième participante à la balade sera ma fille. Balade qui ne peut pas démarrer si ma fille n'est pas là. Je me disais que peut-être vous pouviez attendre. Enfin voilà, Voilà, pardon. Eh bah, nous, on part à 16h.
Okay. Donc ta fille fait du cheval?
Ça lui arrive, ouais, parfois. Ouais. Non, c'est parce qu'à côté de la maison, il y a un centre équestre. C'est vrai que ça lui fait une activité, c'est un peu cool. Mais je préférerais effectivement, parce que ce sera plus facile de connecter, qu'elle me demande comment on accorde une guitare, plutôt qu'elle me dise, papa, regarde, quand je fais ça, il avance.
Ou alors il recule, en tout cas.
Pour moi,
ton fameux cheval. Sûr. Non, Astérix est dans le dernier Astérix.
Exactement.
Qui recule.
Exactement.
Ça n'existe pas apparemment, les chevaux.
Ça n'existe pas pour les dresser, pour qu'ils le fassent.
Voilà.
Le mien, il le faisait naturellement. Quand dessus.
Il a compris que.
Allez, c'est dit. Alors le mec qui est sur moi, les gars, il est au niveau cheval, c'est du zéro pointé. Regardez, je recule. Et mes autres chevaux, on fait wow, c'est une folie, mec.
Manu, j'ai une dernière question pour toi.
Mm-hmm.
Imagine ta fille écoute ce podcast dans 10 ans.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que t'as envie de lui dire là aujourd'hui? Elle aura 16. T'imagines?
God. Bah
je prends photo.
J'ai envie de lui dire, t'es en train de m'écouter, pas de choses à foutre.
Petit polaroid.
Ok. Bah bisous chérie. J'espère pouvoir te dire à tout à l'heure, parce que je vais rentrer un moment. Voilà.
Ok.
Et j'espère que t'es heureuse. Non, ça c'est vrai. Mm. Ça c'est vrai. C'est tout. Cheval, piano ou je sais pas quoi. Juste heureuse.
Ou TikTok.
Juste heureuse. Vraiment. C'est sincèrement. Cool. Mm.
Merci Manu.
Merci à toi Fabrice.
C'était super. Vraiment.
C'est gentil, merci beaucoup.
C'est extraordinaire. Donc,
c'était très chouette.
Le théâtre de l'œuvre jusqu'au 1er avril. Ouais. Et après, partout en France. Démerdez-vous. Allez voir. C'est où sur ton Insta, par exemple, c'est ça?
Ouais, il y a toutes les dates sur mon
Insta.
Voilà,
Manu Payette. Voilà. Allez hop, on t'attend. Voilà. On va voir quoi.
Voilà.
Des bisous.
Des bisous. Ciao.
Ciao. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.